gentlemen. Guten Abend, bonsoir, good evening. Pickets, do you feel good? Comment ça va? Bien. Bon.
Tout le monde, voilà. Et on, oula, pardon, je la refais. Il est dimanche, non, nous sommes dimanche, oui. Il est 22h, oui, et c'est donc l'heure de la causerie sur Radio Canu ou sur radiocanu.org. Et ce soir, à la technique, nous avons la souriante Clara.
Comme d'habitude, bonsoir.
Et dans les studios avec nous, on a aussi Jean-Yves.
Bonsoir, et bonsoir Fab.
Bonsoir. Alors on sait qu'en ce moment l'actualité n'est pas très 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 drôle, on en est tous bien conscients. Le monde est un petit peu sur la brèche d'un petit couteau où il marche en essayant de ne pas tomber. Alors on va espérer que ça tienne encore un peu, et voire même qu'on élargisse un petit peu la poutre sur laquelle on marche, parce que ça commence à être franchement flippant. Et ce soir en fait, on va vous parler culture. Parce qu'on dit souvent que la culture, ça aide aussi parfois à s'éloigner du pire, mais aussi souvent à le regarder en face. Et c'est un peu l'idée qu'on avait ce soir, et vous allez comprendre pourquoi. Et on va commencer tout de suite avec Jean-Yves, qui va nous parler d'une BD. Et je me trouve qu'il fait des drôles de têtes.
Ah non, mais parce que c'est incroyable, on ne s'est pas concerté au départ, et là tu nous fais une entrée incroyable. voilà, c'est tout, je suis ébahi devant... temps de savoir.
N'importe quoi. Non, mais il faut vraiment que tu dormes le dimanche. Ça ira mieux après.
C'est hein. Ça. Ouais. Oui, effectivement, ce soir, je vais vous causer d'une BD sortie il y a un mois aux éditions Casterman. 109 et alors 100 SANG 9 NEUF et son nom Jean-Christophe Chosy en est l'auteur, scénariste et dessinateur. Comme d'hab, quelques mots sur l'auteur. Alors lui, il est né à Toulouse, la ville rose, dans les années 80. Il travaille régulièrement pour la presse rock indépendante. Fin des années 80, il publie sa première BD chez Futuropolis, chez qui il en publiera 4 au total. Début des années 90, il rejoint Casterman, qu'il publie depuis. Et au milieu de tout ça, il bosse aussi avec d'autres scénaristes sur des collaborations. Alors, après avoir vécu longtemps à Paris, il est lyonnais depuis 2019 et aujourd'hui il est prof de design graphique à Lyon. Alors pour être honnête, moi je l'avais jamais lu avant 109, mais ça m'a bien envie de plonger dans son univers qui, selon ce que je lis, est souvent empreint de critiques sociales. Et d'ailleurs, ses dernières créations solo avant 109 s'appellent Le reste du monde, et c'est en 4 tomes et ça se passe dans un monde pas dans le meilleur état, quoi.
T'as mangé un mot. Je crois que ça t'a donné envie de...
J'ai dit quoi ?
Ça t'a envie.
Ah, ah oui, effectivement, j'avais oublié le... Alors, bien voilà. Donné envie.
Je crois qu'il manquait un mot qui est parti. Il a dit, mais pas ce
soir. Oui, c'est... il te fatiguait les mots. Bref, ça sera peut-être pour des prochaines causeries. Donc j'en viens à l'ouvrage du jour, 109. Alors on entre dans le vif du sujet dès les premières pages. Lui, nu... comme suspendu dans le vide, relié à la chimie et à la mécanique qui maintiennent son corps, à moitié mort, en vie. Épuré et pourtant si parlant, enfin, c'est vraiment une force dans l'image, quoi. Alors après des années de surproduction de cellules sanguines, sa moelle osseuse ne produit plus rien, nada, que chi. Il est atteint de myélofibrose, un cancer de la moelle osseuse de niveau 3, le plus élevé. Nous sommes en avril 2020, il va subir une greffe de moelle osseuse, mais avant un petit traitement de chimio pendant 4 jours. Alors vous vous souvenez peut-être que cela coïncide aussi avec un certain Covid, vous voyez, on se remémore tout ça. Ce qui, à la vue de son état de santé, est une deuxième épée de Damoclès au-dessus de la tête. Alors même si le confinement toutes et tous avait pour lui peut-être quelque chose d'égoïstement rassurant. Parce que finalement, si tout le monde est chez soi, c'est moins risqué pour lui.
Bah, il ne faut pas oublier que c'est en grande partie pour ça qu'on a fait un confinement. C'est pour éviter que ça se propage, et notamment aux personnes les plus fragiles. Même si c'était quelque chose de pas joyeux et de pas agréable, et ben, malheureusement, il y a à peu près que ça qui marchait à ce moment-là. Donc voilà.
Bah, lui, voilà. On recroisera ces périodes dans cette BD. Alors nous sommes plongés dans sa tête, dans son corps, ses pensées, de l'annonce du diagnostic à bien après et même aussi bien avant. Alors comment passe-t-on d'une vie pleine de projets à une mort potentiellement rapide, demain, et le déni dans tout ça? Parce que finalement, c'est peut-être quelque chose qui traînait depuis longtemps, vu qu'il était dans une surproduction depuis tout petit. On pouvait peut-être se dire, ou il pouvait peut-être se dire, que quelque chose de moins sympa devrait arriver.
Lui ou peut-être les médecins
ou
aussi,
les médecins. Oui, oui, non, mais voilà, c'est intéressant parce qu'il vient aussi interroger ça, quoi. Alors si la mort peut avoir quelque chose de fascinant dans la culture, le cinéma, etc. Quand elle s'invite chez nous, c'est tout autre chose en fait, et c'est vraiment ça à quoi il va faire face. Et il donne magnifiquement vie, corps en fait, justement à la mort en fait, à la mort de celle-ci qui n'est jamais loin. Vraiment, elle est constamment là, elle rôde en fait. Et dans tout ça, il y a aussi sa famille, sa chérie, ses enfants, ses parents qui sont loin et fragiles. Comment les protéger? Comment leur dire qu'il les aime? Est-il à la hauteur? L'a-t-il un jour été? N'est-il pas un fardeau pour tout le monde? Comment remercier sa petite sœur, Corinne, qui sera la donneuse, de lui permettre peut-être de rester vivant? Y a-t-il des mots, des gestes, en fait, qui peuvent exprimer tout ça, quoi? Et c'est vraiment... Ouais, il arrive à exprimer tout ça en dessin et en parole, évidemment. Et j'ai le souvenir, justement, quand je parle de sa sœur, j'ai le souvenir des dessins de la page, de leur rencontre devant l'hôpital. Elle part après son prélèvement, lui rentre pour le recevoir. C'est le Covid, on porte le masque, on ne peut pas se prendre dans les bras, pas s'embrasser. Et en si peu de mots, vraiment, en quasi aucun mot, mais par les attitudes, la distance, le regard... Et c'est vraiment une scène, moi, que j'ai trouvée absolument bouleversante. Alors oui, je suis peut-être un petit peu sensible, mais vraiment, je trouve que justement, il a cette capacité
Est-ce que je pourrais démarrer la mobilette, s'il te plaît?
Non, il a cette capacité de mettre en image des émotions, des moments vraiment d'intensité avec quasiment rien, et c'est vraiment magnifique, quoi.
C'est la force d'un ce qu'on appelle un dessin coup de poing, c'est-à-dire la capacité en quelques traits, en quelques images, de suggérer, et ouais. Des sujets tellement forts qu'on rentre dans l'émotion.
Bon, alors évidemment, cette scène, elle vient aussi après plein d'autres pages et d'autres trucs. Enfin, on est aussi dans un moment où on vit le truc avec lui, et évidemment, on imagine bien que c'est absolument bouleversant, quoi, cette rencontre devant l'hôpital. Et justement, on plongera inévitablement dans le monde hospitalier, et pour un gars comme moi qui peut tourner de l'œil pour une prise de sang, croyez-moi, j'avais des craintes, parce que vraiment, oui. Alors bon, j'ai bien eu quelques coups de chaud quand même. Parce que vraiment, on est là, quoi. Enfin, c'est le milieu médical. Il y a pas de faux semblants. Il romance pas le truc. Et c'est assez fou, quoi. Mais quelques coups de chaud, mais pas de malaise. Je rassure tout le monde. Je vais bien.
Tu n'es pas tombé dans les pommes en le disant, alors ça.
Non, ça aurait pu arriver.
Mais par contre, moi, je trouve ça intéressant. Je tiens à dire, je l'ai pas lu, moi, personnellement. Donc
personne ne l'a lu à part moi.
Là, j'ai un avis extérieur par rapport à ta chronique. Mais je trouve intéressant, justement, aujourd'hui, qu'on arrête un peu d'américaniser l'hôpital. Je vais expliquer pourquoi je dis ça. C'est parce qu'en fait, il y a de plus en plus de séries américaines où on a l'impression que l'hôpital, ou même françaises d'ailleurs, où on a l'impression que l'hôpital, c'est merveilleux, tout va bien, on est toujours bien soigné, les infirmières, elles sont toujours là et tout. Je dis pas que c'est pas le cas, hein. Je dis simplement qu'en fait, en réalité, l'hôpital va mal, globalement. Et du coup, ben, ça se ressent partout. Et l'hôpital, c'est pas joyeux quand on y est, et surtout quand on est dans des services, ben, comme tu disais, où, voilà, ouais, où on est entre la vie et la mort, ben, en fait, il y a la peur, il y a la crainte, il y a aussi des moments d'espoir et de désespoir. Et en fait, c'est pas un moment, c'est un moment très humain, en fait.
Oui, non, mais alors, moi, c'est surtout,
ça bien de le montrer.
Moi, c'est surtout sa capacité vraiment à, vraiment, pour quelqu'un qui, comme moi, peut être un peu phobique, voire beaucoup, de cet environnement médical. Enfin, vraiment, on y est. C'est-à-dire, on a toutes les machines, on a les poches de transfu, on a, enfin, c'est, on est dedans, oui, quoi.
C'est-à-dire que c'est l'univers de l'auteur. Pendant cette période-là.
Ah, bah oui, c'est.
Et sans l'édulcorer. Et c'est important parce que j'ai l'impression que son but, c'était aussi de montrer ce parcours. Et,
ah, bah oui, oui.
Et ça aurait été quand même, je trouve, triste de ne pas avoir justement cette partie-là du parcours.
Ah, oui, non, moi, c'était vraiment juste pour mettre en garde celles et ceux qui, comme moi, peuvent être un petit peu mal à l'aise quand on parle hôpital et tout ce qui s'ensuit. Alors, sans cet environnement hospitalier, donc, hein, où l'on dépose son ego et sa pudeur à l'entrée de la chambre stérile, vraiment. Chambre stérile où il restera 6 semaines. On a le personnel hospitalier, hein, sa mécanique bien huilée quand même. Il y a hein, les rituels, son dévouement aussi du personnel. Enfin, vraiment,
ah oui, c'est sûr, ouais.
Sa hiérarchie aussi. C'est hyper intéressant vu de l'intérieur en fait. Il y a une mécanique, mais il y a des rôles, etc. Enfin, c'est et aussi l'épuisement. On t'en parlait un petit peu, mais aussi l'épuisement en fait du personnel hospitalier. Et aussi bah, sa capacité à nous aider à pas totalement flancher. Et vraiment, c'est des fois, on a l'impression que ça peut tenir à rien. Mais d'un coup, c'est aussi se raccrocher au vivant, quoi. On est là pour l'instant, donc on reste là, quoi. Et bah, le vocabulaire médical aussi, je trouvais ça super intéressant. Parce que il est comme vous et moi, en fait. Hein, il n'a pas fait 10 ans de médecine. Et donc, voilà, il y a tout ce vocabulaire médical hein, qu'on apprivoise au fur et à mesure des traitements, des analyses et des résultats aussi qui font plaisir ou au contraire, qui replongent dans la peur d'être attrapé par la mort. Et les traitements, justement, bah, on plongera dans le corps, hein, dans les os, dans les artères de l'auteur. Il a une capacité à mettre tout cela en image. Et vraiment, c'est entre la réalité et de la SF, quoi, de la science-fiction. Il y a vraiment certains dessins, on se dit waouh, enfin, c'est presque mutant, enfin, c'est assez, enfin, c'est magnifique. Avec une mise en couleur rouge sang, hein, pour tout ce qui est lié à la mécanique interne. Et c'est, et quand le reste du récit, lui, est majoritairement en nuances de noir, on passe même au gris, hein, en type crayon de papier, quand il nous partage ses souvenirs d'enfance et de jeunesse. Et on peut se demander, est-ce que les autres couleurs reviendront-elles un jour? Bah, ça, je vous laisserai le lire. Et vraiment, c'est vraiment très beau, à taille cellulaire. C'est vraiment, on est dedans, quoi. On voit les petites cellules, etc. Et le brut aussi, sans fioritures. Parce qu'on ne peut pas s'embarrasser de tout ça à cet instant-là. Et vraiment, c'est, je trouve, d'une honnêteté assez incroyable. Et les traitements, c'est aussi bah, les effets secondaires. Hein, ça va des vomissements aux hallucinations morphiniques. J'avais envie de dire ça comme ça. Et vraiment...
Moi, j'ai connu, c'est top. Hein. C'est-à-dire que... Voilà,
c'est top ou pas, parce que vraiment, il y a certains personnages qui interviennent dans ces allus que tu as envie de te dire, tu n'as pas envie de les croiser. Quoi.
Bah oui, ça dépend un peu de ton état d'esprit, mais c'est oui. Pas forcément... voilà.
Et des endroits où on les croise.
C'est hein, ça.
C'est, voilà. Et l'après, est-il sorti de tout cela à jamais? Et comment reprendre goût à la vie? Comment pas gâcher en fait, la vie des autres aussi? Parce qu'on leur a imposé, ou en tout cas, c'est comme ça qu'ils le voient. Il leur a imposé quelque chose. Bref, j'ai adoré, hein, je pense que vous l'entendez. Déjà parce que j'aime bah, le partage de nos intimes individualités, hein, parce qu'elle parle de nous, de notre humanité commune, et ça vraiment je trouve que c'est la force du témoignage aussi. L'auteur nous offre une plongée dans ce qu'il y a de plus intime pour lui, et pourtant si universel. Enfin vraiment, c'est... En fait, tout ce qu'il va évoquer, enfin, je pense qu'on y a tous déjà pensé, ou si on risquait d'avoir les mêmes choses que lui, on y penserait, je pense, à coup sûr, hein, la mort, être terrassé par ça, être, et puis qu'est-ce qui reste des autres, qu'est-ce qu'on a fait pour eux, et voilà, et qu'est-ce qu'ils ont fait pour nous, quoi. Enfin, bref. Et j'ai aimé aussi parce que l'auteur, bah, un mec, ose se mettre à nu. Ose faire part de sa fragilité, de ses émotions, de ses peurs qui le terrassent, mais aussi ce qui l'aide à tenir, les projections difficiles mais indispensables en fait, parce que sinon on fait que broyer du noir et c'est pas possible en fait, on est déjà en isolement quasi total, donc c'est, enfin voilà. Et c'est aussi une ode au personnel hospitalier, tellement indispensable et tout pourtant si méprisé par les dirigeants et dirigeantes politiques. Et enfin, c'est une célébration de la vie, de l'amour, des plaisirs d'une vie qui peut prendre fin si vite, sans crier gare. Et le tout dans un dessin, des couleurs absolument magnifiques, une mise en image de tant de choses, c'est ce que je vous disais avant, mais de penser, c'est absolument bluffant, enfin en tout cas ça m'a bluffé. Bref, je vais m'arrêter là, c'est fort, c'est beau, c'est touchant et je vous le conseille donc vivement, vraiment très vivement. Alors pour rappel, je vous ai causé donc de 109 de Jean-Christophe Chosy, c'est aux éditions Casterman. Et n'hésitez pas à faire vos retours, partager vos avis. Si vous aussi, vous avez lu ou si vous allez le lire, n'hésitez pas, parce que je trouve que c'est aussi intéressant de partager autour de tout ça.
Et merci, ça m'a donné très envie de le lire, mais vraiment.
Et bien, tant mieux, c'est l'idée.
Mais juste, je vais faire une digression, mais deux digressions d'ailleurs. La première, c'est, oui, effectivement, tu parlais du personnel hospitalier qui est tellement méprisé. Je tiens à rappeler quand même qu'aujourd'hui, les hôpitaux sont en lutte, beaucoup encore aujourd'hui, et que, en fait, on le sait pas, parce que vous savez, quand ils font grève, et souvent, ils se... font grève en bossant, parce qu'ils n'ont pas le choix, parce qu'ils ne vont pas laisser mourir les gens. Mais il y a aussi cette réalité-là. Et aussi une vague qui arrive dans les hôpitaux et qui bouscule un petit peu les choses, c'est le fameux MeToo hôpital qui commence à arriver. C'est une très bonne chose. Mais pourquoi je dis que ça bouscule les choses? Parce qu'en fait, ça replace aussi l'idée et le fait que les femmes à l'hôpital sont souvent les plus méprisées, mais souvent aussi bloquées dans leur carrière. Alors que, voilà. Et donc ça fait plein de choses qui s'entrechoquent en ce moment autour de l'hôpital, entre le mépris d'un côté institutionnel, on va dire, où on a un Bruno Le Maire qui vous explique qu'en fait, il faudrait faire des économies sur l'hôpital alors qu'elle est déjà exsangue et que tu ne sais pas trop comment tu vas faire des économies sur un système qui est déjà exsangue. Et de l'autre côté, en fait, la chute un petit peu de tout ce qui est mandarina, les mandarins, tout ça et tout, qui en fait que c'est peut-être un moment où justement les choses pourraient se rééquilibrer, où on pourrait repenser les choses. Et j'ai lu plusieurs textes que je vous invite à lire, notamment publiés par Sud Hôpital ou par la CGT Hospitalier, sur justement des femmes, et parce que c'est beaucoup des femmes qui écrivent là-dessus, qui expliquent comment on pourrait repenser l'hôpital de demain et comment on pourrait repenser cet espace pour redevenir un espace humanisé, et même s'il l'est toujours, mais il l'est avec beaucoup, beaucoup de pression, du personnel qui encaisse une charge énorme. Donc voilà, donc en fait, je vous invite vraiment à aller lire ces textes parce qu'ils sont intéressants et où elle parle justement du fait que, contrairement à ce qu'on croit, le fait qu'il y ait aussi des hommes qui se permettaient tout à l'hôpital est aussi une part du problème de l'état dans lequel se trouve l'hôpital aujourd'hui. Et elle le relie très bien, c'est très intéressant. Et là,
vas-y.
Et la deuxième digression, c'est que moi je voulais juste dire à tous les gens qui détestent l'idée qu'on soit des cyborgs reliés à des trucs et tout, en fait, quand on vous sauve d'une grave maladie, souvent vous êtes un cyborg un certain temps, et finalement c'est peut-être pas si mal.
Ah mais oui, vraiment, il vient aussi interroger tout ça, et en tout cas il le dit, en fait
c'est
la chimie qui l'a maintenu en vie, et c'est une réalité.
Les machines, la chimie,
mais oui
c'est la définition du cyborg,
et justement il parle aussi de ses traitements qu'il essaye, qu'il arrête, et il y a une image où il jette, enfin il y a cette image de jeter un traitement parce qu'on l'arrête qui vaut 1500 balles, quoi. Et que, en fait, est-ce que c'est grave ou pas? Enfin, je trouve que c'est...
Et combien vaut une vie?
Mais oui, c'est aussi ça que ça vient interroger. Ouais. Mais après, enfin voilà, je rappelle...
Mais là, c'était pas le sujet de ton livre.
C'est pas le sujet de la
vie. J'ai bien dit que je faisais une digression.
Oui, oui, oui. Mais je préfère rappeler, là, on parle vraiment du parcours de Jean-Christophe Chosy. Oui. C'est donc dans 109 aux éditions Casterman.
Et tu le recommandes?
Évidemment, quelle question. Mais voilà, donc faites-vous plaisir, enfin peut-être pas plaisir, mais en tout cas lisez cette BD. Ouais, bref. Et ben voilà, on passe à la ZIC.
Set you fence.
et t'es toujours à l'écoute de Radio Canut et c'est toujours la causerie comme tous les dimanches après 22h. On vient de s'écouter un titre que vous connaissez très certainement, n'est-ce pas?
Barry the Specials.
C'est tout à fait ça, avec le titre Gangsters.
Ben oui.
Et un remix d'Altarba.
Ah voilà, il y avait Altarba quelque part.
Oui, c'est une de ces dernières petites productions, un petit remix donc de ce titre des Specials.
Ben, ça montre la diversité en tout cas d'Altarba.
Ah bah ça.
Parce que il est capable de travailler sur des styles musicaux très larges.
Très très larges.
Et je m'attendais pas spécialement moi à voir un remix de The Specials.
Et ben voilà. Il est surprenant ce Altarba. Eh bien, c'est Fab qui prend la suite. Et comme il disait au début, ce soir on cause culture, on cause livre. Et c'est donc du livre de Panayotis.
Ouais, Pasco.
Pasco, dont tu vas nous parler.
Qui s'appelle La prochaine fois que tu mordras la poussière. Alors moi j'avoue, j'ai hésité un temps à chroniquer ce livre. Alors d'abord parce qu'il a eu une très grande couverture médiatique, on va pas se mentir. Mais aussi, en fait, parce que je me rends compte que quelque part il a remué en moi des choses que je pensais être un petit peu mieux réglées et que du coup bah, c'est pas toujours facile de venir parler d'un livre qui vous a un peu beaucoup touché. Alors je vais commencer d'abord par vous présenter l'auteur parce que c'est important. Ouais. Alors Panayotis Pasco, Pasco ou Pascotte, mais je vais dire Pascotte parce que je crois que ça se dit Pascotte. Si c'est pas comme ça, il m'en voudra pas. Surtout qu'il n'écoute pas. donc Panayotis, c'est le petit dernier d'une famille de 6 enfants. Il est né en 1995 à Amiens. Il vit dans une famille qui ne manque de pas grand-chose. C'est ni pauvre ni riche, mais classe moyenne bien installée, comme on dit. Sa mère est illustratrice et son père est un écrivain et homme politique assez connu. C'est Philippe Pascotte, ou Pasco. Ça doit vous parler, parce que c'est l'administrateur de l'association Anticor. Donc c'est celui qu'on a vu quelquefois à la télé venir parler pour Anticor. Et il est aussi producteur de musique pour ceux qui écoutent du rock, parce qu'il produit beaucoup de groupes de rock et de concerts aussi de musique venue d'Afrique. Okay. Voilà. Il est connu, hein, son père, pour son charisme et sa détermination. Hein, tout le monde le présente comme ça systématiquement. Donc c'est pas forcément simple d'être le fils de quelqu'un qui a du charisme et de la détermination. Et c'était un proche de Manuel Valls à une époque, et il était membre éminent du Parti radical de gauche. Il s'est éloigné d'Emmanuel Valls. Manuel Valls s'est éloigné de tout le monde, à part de lui-même. Mais il reste fidèle au parti, au PRG, au Parti radical de gauche. Voilà. Donc Panayotis, hein, vous le connaissez peut-être parce qu'il a commencé à la télé à 17 ans, dans ce qui s'appelait alors le Petit Journal, et qui s'appelle aujourd'hui, après un changement de chaîne, Quotidien. Il y était chroniqueur, il est aussi comédien, vous avez pu le voir dans Le Dain, de Quentin Dupieux. Oui. Vous avez aussi pu le voir dans Adopte un veuf, de Vincent Desagna, et ainsi que dans des séries comme En Place ou De Grâce, voilà, où il joue des rôles assez éloignés les uns des autres, mais c'est un très bon acteur d'ailleurs. Et il a aussi fait un premier spectacle intitulé Presque, voilà, où il disait presque tout, voilà, et qui a été mis en scène par Farid, dans lequel il commençait à tenter de poser des choses sur sa vie et son intimité, sans jamais arriver à aller au bout. D'où le titre du spectacle qui était presque. Voilà. Mais c'est dans son premier livre, hein, que tout explose. Je reprends ces mots, parce que c'est la notion d'explosion, je la trouve assez belle. Il va y parler de ses périodes dépressives et de la maladie qui y est liée, des relations avec son père et de son homosexualité. Ainsi naît, je trouve ça mignon parce qu'il l'a dit comme ça, j'ai fait naître un livre. Je trouve que les auteurs qui parlent ça, il y a aussi d'autres qui disent ce sont mes enfants, et je trouve que c'est très beau en fait quelque part. Donc ainsi naît La prochaine fois que tu mordras la poussière, qui est un roman, mais un roman qu'on peut classer dans la catégorie autofiction. Vous savez, c'est-à-dire c'est un roman sans être vraiment un roman, tout en étant, voilà, la forme est romanesque mais le fond est réel. Ouais. Voilà. Et en fait, ben c'est assez intéressant de voir justement qu'on peut aussi raconter des faits réels tout en y mettant une forme romanesque, dans le sens où ça se lit comme une aventure entre guillemets, mais en fait c'est aussi à nous d'aller décrypter ce qui relève du réel, et c'est ça rend la lecture encore plus intéressante du coup. Alors je vais parler du livre aussi, hein, quand même, c'est mieux, parce que si je vous le présente, c'est quand même un peu mieux. Donc avant d'aller plus loin, je vais quand même d'abord souligner que le livre, il est superbement écrit, vraiment, c'est très très bien écrit. C'est clairement pas un livre fait à la va-vite, et pour plaire à un lectorat de fans, parce qu'on aurait pu... Moi j'avoue honnêtement, c'est une des choses qui m'a, je le dis sincèrement, c'est un des trucs qui m'a freiné, parce que Il y a beaucoup de livres, vous savez, qui sont faits par des gens qui sont connus, voire même des youtubeurs, des trucs comme ça. Et bon, c'est mal écrit, c'est fait très vite et c'est fait pour faire de la thune. Et des fois, j'ai un peu peur de ça, je vais être très clair. Et là, pas du tout. C'est vraiment un livre bien écrit et même, j'ai envie de dire, on sent la douleur qu'il a fallu à certains moments pour poser les mots. Donc, quand on arrive à sentir même la douleur de l'auteur, c'est qu'à un moment donné, c'est très très bien écrit. Et c'est un livre extrêmement intime. Qui est d'abord en fait à mes yeux plutôt écrit par l'auteur et pour l'auteur lui-même, c'est-à-dire voilà.
Il avant, a vomi ses mots.
Voilà, avant de le donner aux autres, c'était avant tout pour lui hein, qu'il l'écrivait. Et puis ben c'est des chaque mot, chaque phrase est pesé et calibré, ce qui est assez intense parce que j'avoue que ben il y a des moments où quand on est dans le livre, ben il y a des phrases en fait elles résonnent avec elles sont courtes mais elles résonnent avec une profondeur assez comme un coup de poing, une percute, et c'est très intéressant d'avoir justement cette qualité d'écriture parce que ça se fait rare aujourd'hui et que ça fait du bien. Voilà, je vous le dis puisque c'est bien de lire des choses aussi où les auteurs vous cherchent pas à vous comment dire à vous ménager. Donc, voilà.
Oui, il y a pas, enfin c'est pas un style avec des longues phrases.
Ah non, c'est oui. En fait c'est écrit. Je sais pas comment dire ça. C'est écrit comme si je vais le dire comme ça. Il y a des passages, ils sont écrits comme s'ils s'engueulaient, et des passages où c'est okay. Écrit comme s'ils se consolaient. Donc okay. En fait, c'est assez intéressant parce que c'est du coup une espèce d'aller-retour entre des émotions qui sont très fortes, les unes et les autres. Et vraiment, ça fait vraiment du bien. Donc je vais détailler quand même un peu de quoi ça parle. Mais je vous promets, je vais beaucoup digresser. J'aime bien faire ça, vous avez pu l'entendre avant. Et faire attention à vous garantir quand même une lecture pleine de surprises. Donc c'est-à-dire que je vais pas vous spoiler grand chose. Parce que je vous conseille je vous déconseille à titre personnel de prendre cette chronique, de l'écouter, de dire ah je pourrais parler du livre de Panayotis Pascot parce que j'ai entendu la chronique, ça marchera pas. Donc il faudra que vous le lisiez. C'est dommage. Hein
voilà. Heureusement.
Mais oui quand même. Donc il nous parle de trois thèmes forts de l'auteur. Hein. Le premier c'est sa relation à son père. Alors je veux dire que j'ai rarement lu une description aussi intéressante de la relation père-fils. Parce qu'on entend souvent parler de la relation mère-fils, mais très rarement de la relation père-fils et de ce qu'elle l'engendre, de ce qu'elle entraîne.
Ça, c'est parce que tu lis pas les livres des fils de Long ou Hallyday. Pardon, je ne pouvais pas ne pas la
mais
faire.
Mais non, oh là là, c'est pas possible, il a osé. En fait, c'est intéressant parce que là, c'est ce fils, en l'occurrence, Panayotis, c'est le sixième enfant. Et ça a un sens d'être le sixième enfant, hein. C'est pas simple d'arriver en sixième, voilà.
Ça met de la distance.
Déjà ça met de la distance un peu partout, ça met de la distance avec des parents qui ont déjà élevé cinq enfants, et puis ça met de la distance aussi avec ses frères et sœurs, en l'occurrence frères, parce que y a un écart très grand entre le plus âgé et le plus jeune. Sans trop entrer dans les détails, hein, Panayotis Pascot a du mal à connecter avec son père. Vraiment, à le comprendre et du coup du mal à l'aimer vraiment. Alors ça peut paraître violent mais c'est un peu comme ça qu'il le décrit, il a du mal à l'aimer vraiment. Non pas que celui-ci soit totalement indifférent, hein, c'est pas l'idée, mais plutôt une sorte d'impression d'un immense loupé entre deux. Voilà,
en fait, c'est toujours pareil, les relations elles se construisent en fait.
C'est ça.
Et pour les construire, il faut être deux. Tu construis ce que t'as, quoi.
Quand il le décrit au début du livre, hein, c'est pour ça que je me permets de le dire, son père, il est viril, puissant, charismatique. Et puis Panayotis Pascot, si vous l'avez déjà vu, il n'est pas vraiment l'archétype du mec viril et puissant. Lui, il se voit comme le total inverse de cela. C'est-à-dire que voilà. Et puis, il semble finalement ne pas avoir de centre d'intérêt commun avec son père. Donc, c'est compliqué de construire dans cette famille. C'est d'ailleurs très intense de lire que sur la relation père-fils, c'est souvent dans la littérature une relation positive. C'est-à-dire que souvent, le fils est un peu fier de son papa,
oui,
la continuité, la transmission. Et là, en fait, et souvent dans la littérature, c'est la relation à la mère qui est négative. D'ailleurs, on peut d'ailleurs remontrer cet enfoiré de Freud du doigt, parce que ça vient quand même de la psychanalyse freudienne, hein, tout ça. Mais là, en fait, ça fait du bien parce que d'abord, il y a une sorte de déculpabilisation de ne pas avoir eu une relation parfaite, par exemple, avec un père, ou des maladresses qui auraient pu exister. C'est comme ça existe. Et puis une explication plus qu'une justification. Parce que l'idée, en fait, de son livre, c'est pas de justifier quoi que ce soit, c'est d'interroger. Il n'arrête pas de s'interroger sur pourquoi j'y arrive pas, pourquoi quand il fait ça, ça m'énerve, pourquoi là, il essaye de venir vers moi, je le sais, mais j'y arrive pas. Vous voyez, c'est plein d'interrogations très intéressantes. Et la relation entre Panayotis et son père, elle commence à s'interroger, figurez-vous, le jour où la maladie s'installe, et où elle touche son père. Et là, c'est le jour où, en fait, eh ben, d'un coup, les interrogations se mettent en route. Ça rejoint le livre que tu présentais juste avant. Donc, autre sujet du livre, et pas des moindres, la dépression. Alors, pas la petite dépression d'hiver, hein, par manque de luminosité, parce que les terrasses sont fermées et que je sais pas où je vais prendre mon café. Pas du tout. Dans la vraie dépression, la dépression chronique, cyclique, qui revient toujours, celle qu'on essaye de fuir mais qu'elle nous rattrape, cette dépression qui fait que on a beau se dire je ne veux pas déprimer mais on y tombe, celle qui nous fait faire aussi n'importe quoi et parfois le pire, celle qui finit par tellement inquiéter les proches qu'elle se retrouve à être obligée de nous suivre au plus près. Et s'il en parle, en fait, il le fait bien et avec beaucoup de recul dessus. Et c'est pourtant un sujet pas simple à aborder, hein, parce que il aurait pu faire ça de façon extrêmement larmoyante ou au contraire extrêmement détachée, ce qui aurait été encore plus terrible. Mais là, non, il trouve une espèce de juste milieu qui est très agréable à lire. Ça peut bien pas être bizarre ce que je dis, mais agréable parce que quand vous n'êtes pas touché par cette maladie, il vous permet de comprendre ce qu'elle induit. Et ça, c'est pas facile, en fait, de faire passer ce qu'induit une maladie. Et lui, il arrive par des mots, par des expressions, par des situations qu'il décrit, à nous emmener dans cette dépression et dans ce qu'elle veut dire et dans ce qu'elle est. Et ça demande, en fait, de se regarder en face, de pouvoir faire ça, d'admettre ses faiblesses, ses doutes, et qu'on est malade. D'accepter que l'on est avant tout des gens avec des failles, et parfois que ces failles sont plus importantes qu'on ne le pense. Et c'est très intéressant parce que Panayotis Pascot, il y arrive très très bien. Et surtout, il y arrive avec beaucoup de violence envers lui-même parfois. Et on a presque envie, quand on est sur certains chapitres, d'aller le voir et juste lui prendre les épaules et lui dire viens. On va faire un câlin, ça va aller beaucoup mieux après. Ouais. Non mais vraiment, parce qu'on est touché, parce qu'on se dit, ben, on ne saurait pas quoi faire pour l'aider d'autres que de lui dire en fait, t'es pas tout seul. Voilà. Et enfin, le troisième sujet du livre, bah, c'est l'homosexualité de l'auteur. Alors, je sais, aujourd'hui, tout le monde pense que c'est banal. Bah non, c'est toujours pas banal d'être homosexuel, même quand, comme Panayotis, vous avez 25 ans. C'est pas simple, c'est pas inné, c'est, voilà, on le découvre, on arrive, on dit, bah mince. Voilà. Ah bah moi, je suis gay. Bon, voilà. Ou plutôt, bah, c'est ce qui est compliqué, ce qui démontre, c'est sa quête d'acceptation de cette homosexualité. Accepter que, bah, en fait, on n'aime pas les filles. Et plutôt les garçons. Voilà. Car au départ, hein, Panayotis Pascot, il a envers lui-même toute la haine que peut avoir un homophobe. C'est-à-dire que non, on peut pas aimer les garçons, non, c'est mal, non, machin. Voilà.
Une homophobie intérieure.
Ouais, clairement, quoi.
Ouais, non, c'est quelque chose dont on a déjà parlé, je crois, d'ailleurs aussi.
Ouais, tout à fait. Alors, il comprend pas, il cherche, il veut pas, mais le corps parle, l'esprit parle, le cœur parle. Et puis quand on tombe amoureux, ben on tombe amoureux, hein, donc voilà. Et c'est une partie du livre qui est importante car elle peut aussi aider. Et vraiment. Et moi, j'ai rien hein, contre les livres autour du sujet, mais souvent, les livres sur l'homosexualité, ils sortent du vécu pour entrer dans la théorie. C'est-à-dire qu'on va dire, ben, je suis homosexuel, mais c'est pas grave parce que maintenant on a des droits et que machin. Ouais, ok. Sauf que c'est pas ça dont parle Panayotis Pascot. Lui, il vous parle du moment où, en fait, ok, on sait qu'on a des droits, on sait qu'aujourd'hui c'est dépénalisé, on sait qu'on va peut-être pouvoir se marier. Tout ça, on le sait, pas de problème. Mais comment on le vit? À quel moment on accepte d'être homosexuel? À quel moment on accepte de se dire c'est pas grave, mais pour soi-même, pas pour la société, on s'en fout de la société à ce moment-là. C'est nous qu'on essaye de se dire mais pourquoi je dois changer par rapport à ce que j'avais prévu? Parce que souvent on se projette sur quelque chose et puis bah, en fait c'est plus compliqué qu'on le pense. Voilà.
Oui, et puis, je sais pas s'il en parle dans le livre, mais c'est aussi le rôle de la société, ou peut-être aussi est-ce que d'avoir un père viril,
ouais, voilà, le regard des autres,
machin, est-ce que ça aide aussi à se dire tiens, on peut être autre chose, on peut être.
Bah, comment assumer le regard des autres?
Ouais.
Voilà. Bon, là, comme pour le reste du livre, hein, clairement, c'est viscéral, maladroit parfois, il le sait, hein, il écrit, hein, il sait qu'il est maladroit. Profond souvent, et moi je trouve ça vraiment très très profond par moments, sur cette réflexion et sur cette capacité à poser l'intime, c'est-à-dire pas poser le fait que. Je sais pas comment dire, il est dans un milieu, comme je vais vous spoiler un tout petit bout du livre, il dit dans un milieu où finalement être gay c'est pas grave. Il est artiste, voilà. Mais c'est pas l'art que c'est le problème, encore une fois, c'est lui, c'est avec lui-même qu'il a un problème. Et du coup, bah, il arrive à poser ça. Il dit, mais même dans mon milieu où finalement tout le monde s'en fiche ou presque, bah, en fait, bah, c'est pas simple pour lui. Voilà.
Oui, parce que, et ouais, mais et en même temps, on vit pas que dans notre famille, etc. On évolue aussi dans une société où, enfin, je veux dire, il suffit d'ouvrir un peu les journaux et on se rend bien compte que.
Bah, c'est pas facile.
Qu'être LGBT aujourd'hui, même en France, c'est pas du tout facile.
Très,
en fait,
très clairement. Donc, c'est du vécu rugueux avec tout ce que cela comporte de rugueux. Et du coup, c'est d'une sincérité assez déconcertante par moment. Bon, voilà. Je dis qu'il a 25 ans, mais je crois que je me suis trompé de calcul. Parce que 95 à 2024, ça fait pas 25, hein, ça fait 29. Voilà. Oui, c'est moi qui ai mal calculé. Donc, l'auteur, il a donc 29 ans aujourd'hui. Et moi, j'ai pu constater sur les réseaux sociaux et deux, trois interviews qui, des gens qui appelaient, vous savez, quand on peut appeler les auteurs.
Okay.
Non, mais c'est vrai que le livre aidait et il libérait des gens de 15 à 30 ans sur justement qui découvraient. Ou du moins qui acceptaient leur homosexualité. Mmh. Et en fait, bah, ça aidait parce que bah, d'avoir quelqu'un qui vous explique que bah, toute vedette qu'il était à 17 ans dans une chaîne hyper ouverte à l'époque, hein, parce qu'on parle du Canal Plus d'avant Bolloré, avec entouré d'une équipe qui était hyper fun et ouverte et tout, avec des amis qui finalement, voilà, bah, c'était quand même pour lui un sacré chamboulement. Mmh. Et c'est pas grave que ce soit un chamboulement. Donc voilà, donc il y a des gens beaucoup de gens qui disent bah merci parce qu'il se retrouve dans ce qu'il a vécu, le pourquoi, le comment, mais surtout dans l'amour qui naît. Ouais. C'est-à-dire qu'en fait, oui, amis auditrices et auditeurs, ce que vous ne savez pas, c'est que on commence à accepter son homosexualité, sa bisexualité, ou du moins sa sexualité déviante dans les hétéronormations, le jour où on tombe amoureux ou amoureuse. Parce que ce jour-là, en fait, on n'arrive plus à trop à se mentir.
C'est
un peu étrange où d'un coup on n'arrive plus à se dire bah en fait non, ça marche pas.
C'est là où le contrôle peut tomber et, c'est ça. Et en fait on existe quoi.
Et il le décrit très bien, donc voilà, il y en parle loin. Et dois-je dire, hein, la sincérité, la sensibilité, hein, de Panayotis Pascotte m'a emmené, alors attention, quand je dis sensibilité, n'y voyez pas de la sensiblerie, c'est quelqu'un de sensible mais dans tous les sens du terme, c'est-à-dire que ça peut être quelqu'un d'excessif dans plein d'aspects de sa vie, et croyez-moi ou non, hein, je vous le dis, c'est pas facile de verser une petite larme dans un wagon de TGV plein. Donc voilà, mais en tout cas c'est vraiment, voilà, c'est très beau. Alors quand on termine ce livre, on est un peu quand on quitte un ami qu'on sait qu'on ne le reverra pas de sitôt, ou plutôt, vous savez, ces gens parfois qu'on croise, qu'on connaît pas, mais avec qui pendant toute une soirée on a échangé profondément sans comprendre pourquoi avec cette personne ça a été possible. Bah, ça fait un peu ça quand on ferme le livre, c'est-à-dire on se dit waouh, j'ai passé un moment étrange, c'était bien, ça m'a fait du bien, je sais pas pourquoi, mais c'était cool. Et en même temps, j'ai cette petite amertume qui me rappelle que ben j'avais des trucs à régler et c'était bien, c'est bien ce que ça m'a aidé à le faire. Voilà. En tout cas, l'auteur, je le rappelle quand même, il manque pas d'humour. Donc du coup, oui, parce que c'est quand même, pour ceux qui le connaissent, c'est un auteur comique au départ.
Oui,
quand
oui,
même.
Oui, oui,
ce que j'allais dire. Donc il manque pas d'humour. Hein. Du coup, le livre n'est pas plombant. Il peut pas s'empêcher des fois de mettre des situations comiques ou des réflexions comiques à des endroits où on s'y attend pas. Donc c'est assez étrange parce que du coup, ça, je sais pas comment dire, ça nous réveille. Je sais pas comment, voilà, c'est bien. On se dit d'ailleurs qu'il ferait un bon film ou une bonne série, ce livre. Okay. Et on se dit, tiens, ce serait bien parce que ça pourrait faire du bien aussi sous un autre format, parce que ça toucherait pour le coup un autre public, et pourquoi pas d'ailleurs une adaptation en BD, parce que j'y pensais, je me suis dit tiens, ça peut être aussi un troisième public, et je pense que ça peut être intéressant parce que c'est vraiment, bah c'est un livre comme rarement j'en ai lu d'intéressant comme ça, voilà, peut-être que je survends le truc, mais moi à titre personnel, bah, je l'ai vraiment aimé, voilà. Bref, je vous le recommande donc chaudement, ça s'appelle La prochaine fois que tu mordras la poussière de Panayotis Pascotte, et je vous invite même à l'offrir autour de vous, parce que c'est le genre de livre qui peut ouvrir des débats, et ça c'est bien. Genre par exemple, vous avez une mère ou une grand-mère un peu homophobe, ou un père ou un peu homophobe, mais qui, quand il regarde le quotidien, il trouve vachement sympa ce Panayotis, bah, vous lui mettez le livre et puis vous dites, regarde, bah, c'est ça qu'il a vécu, et moi aussi, alors maintenant on se parle. Donc c'est un truc, ça peut être bien. Alors c'est aux éditions Stock, et vous pouvez d'ailleurs le réclamer à vos médiathèques, parce que bah oui, après tout on n'a pas toujours les moyens d'acheter des bouquins, c'est pas donné, donc voilà, donc du coup n'hésitez pas, et je vous le recommande vraiment chaudement, même s'il a eu une énorme couverture médiatique, il vaut vraiment la peine.
Oui, et puis voilà. Ça peut être sur une tante ou une maman ou je ne sais pas quoi, ou un papa homophobe, mais ça peut aussi être sur des gens qui peuvent, non mais tourner en dérision la dépression en fait.
Oui aussi.
Enfin, genre le arrête de te plaindre, ça va. Bah en fait la dépression, c'est enfin.
Bah oui tout à fait. Ouais.
C'est un mal plus profond que juste sors-toi les doigts du cul quoi. Pardon, mais.
Bah, ça on est d'accord. Alors justement je voulais, enfin vu qu'on a un peu de temps, je vais me permettre de le faire, mais Le passage sur la dépression, je l'ai trouvé hyper intéressant et hyper intense, justement parce que il amène quelque chose. Alors je vais faire 3615 My Life, ça fait vieux quand j'ai ça. Mais www la vie de Fabien.
3615 oui ça.
Non mais moi j'ai été un con à une époque de ma vie parce que j'ai pas su accompagner des gens qui étaient dépressifs et je faisais partie de ces gens qui se disaient sors-toi les doigts du cul, pense à autre chose et tous ces trucs un peu débiles qu'on dit. Je m'en suis toujours voulu, c'était il y a longtemps, j'ai 47 ans mais c'était il y a longtemps. Je m'en suis toujours voulu et je me suis toujours dit en fait j'étais pas armé à ce moment-là. Je ne comprenais pas ce qu'était l'état dépressif et je parle vraiment de la dépression, la maladie de dépression. C'est pas un gros mot hein, la maladie, hein, je le redis. Et voilà. Et moi le livre, je parlais des choses qui m'ont un peu tourneboulé dans ce livre, c'est de me dire bah merde, j'aurais aimé le lire à peut-être 20 ans, justement pour peut-être pour être moins con. Enfin moins débile, moins bête, je sais pas comment le dire. Enfin moins idiot, parce que
compréhensif.
Ouais, parce que voilà, et je m'en veux de cette période de ma vie et je sais que j'ai fait des conneries. Donc voilà, et ça m'a remis un peu dans cette perspective là de me dire ouais, OK, là t'aurais peut-être dû être un peu moins fermé. Voilà. Et vraiment moi je le dis, c'est un livre à lire et c'est un livre à faire lire et je pense que c'est un livre à faire lire notamment aux ados. Parce que il aide aussi à relativiser certaines choses et il y a aussi la relation avec son père qui est très intéressant et très intense. Et justement, c'est pas facile de faire famille. Et finalement, est-ce que finalement on est obligé de glorifier la famille ou est-ce que finalement des fois il faut apprendre à faire avec? Voilà, ça fait aussi partie des questionnements. Je vous rassure, c'est pas tout ma part. Là, ça va pour moi. Moi, de ce côté-là, moi, ça va. Non, mais je vous dis, c'est
non, mais en fait, voilà. Il vient interroger choses. C'est, là, encore une fois, pardon, mais je me répète parce que, par rapport à mon sujet, mais en fait, c'est toujours cet intime qui, finalement, est quand même très universel. C'est-à-dire que le rapport à l'autre dans sa famille, on y est tous et toutes confrontés. C'est un truc, on peut pas passer à côté, quoi. Donc, et toutes les relations ne sont pas forcément super, etc., etc.
Non, clairement.
Et elles sont pas forcément horribles au point de. Mais enfin, c'est. Oui, je trouve que oui. Et après, sur la notion de dépression, etc., enfin, je sais pas, mais peut-être que. Ouais, là, je vais peut-être généraliser mon cas. Mais non, mais je sais pas, mais c'est quelque chose qu'on a pu connaître, alors plus ou moins intensément, etc., ou connaître des gens
pas
autour de nous.
Okay. Bah, pas tout le monde. Non, justement, c'est pour ça que je pense que ce genre de livre est intéressant, parce que je pense que tout le monde d'abord ne voit pas quand quelqu'un déprime à côté de lui. Tout le monde n'a pas connu des passages dépressifs, c'est pas vrai. Et je parle vraiment de la dépression, parce que, attention, un Panayotis Pascot, il le dit, lui, il a une dépression chronique, c'est-à-dire que ça revient, c'est mélancolique, c'est cyclique, c'est compliqué, il est obligé d'en passer par des traitements parce que sinon, ils se font en l'air, faut être très clair, et que donc en fait il y a un moment donné il décrit quelque chose que beaucoup, la société refuse de voir, en fait que il y a des gens qui ont besoin d'un coup de main, en fait, et que c'est pas grave d'avoir besoin d'un coup de main, mais qu'on a tendance, et je le dis, c'est moi ce qui m'a le plus chamboulé à titre personnel, je l'ai dit juste avant, on a tous eu tendance, et c'est là peut-être que on a l'effet inverse, de minimiser. C'est-à-dire de dire oh ça va encore machin et tout, et en fait je trouve que c'est important d'avoir des gens qui sont capables de vous dire voilà, j'étais une vedette à la télévision, ça allait bien, j'ai gagné très bien ma vie, et puis un jour j'ai pas réussi à me lever. Et c'est un truc, et c'était pas un burn-out, donc vous voyez, c'est un truc, c'était autre chose. Et en fait, ce truc là, en fait, cette vision là, ce moment en fait là, et ça renvoie en fait à des réalités. Et oui, et je pense pas que tout le monde justement ait connu la dépression ou l'ait vu. Et je pense qu'on a tous des moments moins bien, mais une vraie dépression, c'est autre chose. Et surtout, je pense qu'on a du mal dans notre société à se dire que les gens ont le droit d'être pas bien. Et que ce droit, en fait, ça veut pas dire que derrière il faut les juger, mais plutôt il faut les entourer de la bienveillance, j'aime pas ce mot-là, mais je cherche autre
chose.
Non,
mais oui, non, mais en même temps.
De l'empathie.
Oui, oui, et en même temps, dans une société ultra performative.
Mais c'est ça.
Et du développement personnel qui, en fait, est la négation de tous nos mots.
C'est horrible, le développement personnel.
Donc, c'est intéressant, quoi. Enfin, bref. Donc, c'est quoi nouveau le livre?
Donc, ça s'appelle La prochaine fois que tu mordras la poussière. C'est de Panayotis Pascot et c'est aux éditions Stock. Et je vous le conseille vraiment.
Allez, on passe à la ZIC.
Poussez les chaises.
Ah oui, ah oui,
levez-vous,
oui.
Et dansez.
Oui.
Ich knie, guck, ich zerreiße den Vertrag, schmeiß die Fetzen in die Luft, wünsche einen schönen Tag, weil ich kündige. Jupp, komm mir nicht mit AGBs. Die haben keine Gültigkeit, weil ich die gar nicht lese. Ich kündige, guck, ich zerreiße den Vertrag. Schmeiß die Fetzen in die Luft, wünsche einen schönen Tag. Weil ich kündige, jupp, komm mir nicht mit AGBs. Die haben keine Gültigkeit, weil ich die gar nicht lese. Ich kündige. Da tust du und da machst du, reißt dir ein Bein aus und was hast du?
Nüschte.
Da machst du weiter, machst es besser und das zweite Bein verrenkst du, aber denkst du. Und dann schluckst du und dann kniest du und dann Rückgrat, das verbiegst du und dann kiekst du. Doch dann spuckst du in die Hände durch den Tunnel Richtung Ende und was ist da? Sense. Und das Auge zuckt den dritten Tag in Folge. Ist halt, wie es ist, nicht wie es sollte. Dabei musst du es doch nur wollen und dran glauben. Dann fällst du nie mehr auf die Fresse, sondern nur noch auf die Schnauze. Und da sollst du dich zurücklehnen und nett lächeln, oder was? Da sollst du mal dein Glück sehen und was du nicht alles hast. Alter, noch einen einzigen Kalenderspruch. Und es gibt dir gleich einen feierlichen Wutausbruch.
Folge deinem Herzen, denn du...
Halt dein Maul! Ich kündige, guck, ich zerreiße den Vertrag. Schmeiß die Fetzen in die Luft, wünsche einen schönen Tag. Weil ich kündige, jupp, komm mir nicht mit AGBs. Die haben keine Gültigkeit, weil ich die gar nicht lese. Ich kündige, guck, ich zerreiße den Vertrag. Schmeiß die Fetzen in die Luft, wünsche einen schönen Tag. Weil ich kündige, jupp, komm mir nicht mit AGBs. Die haben keine Gültigkeit, weil ich die gar nicht lese. Ich kündige... Sonntagsbraten in den Hass. Doch bevor ich nicht mehr weiß, was ich tu, wär's vielleicht ja ganz gut, wenn ich's lass. Ey, jetzt ist aus die Maus mit konstruktivem Umgangston. Klappe zu, danke sehr, tschüssi und viel Spaß. Pfeife La Paloma auf die Zivilisation. In mir steckt so viel mehr, nämlich ein Primat.
Et oui, vous êtes de retour dans la causerie au 102.2 sur RadioCanu.org et on vient d'écouter Grosche Stadt geht Flüster, j'arrive pas à le dire, pardon, Flüster, avec Ich kündige. Voilà. Et alors ça veut dire « je démissionne ». Et cette chanteuse, rappeuse, humoriste allemande, d'une quarantaine d'années environ, en a eu marre un jour de tous ces gens qui lui disaient, parce qu'il y a une blague en Allemagne, quand une femme se plaint de son mari, le mari lui répond « tu aurais dû lire les petites lignes ». Voilà, c'est les dagebe, c'est-à-dire c'est les petites lignes à la base des contrats. Et donc elle, elle dit « bah moi je m'en fous, j'ai plus envie de les lire, je vais tout exploser et je me casse ». Voilà.
Et ben, très bien.
Et juste, je voulais corriger, je me suis trompé en tapant, et en fait, bah, Panayotis Pascot a bien 25 ans, et il est né en 98, pas du tout en 95, mais il m'en voudra pas, je l'ai vieilli 3 ans, c'est pas dramatique.
Oui, parce qu'on le rappelle, il nous écoute pas.
Il nous écoute. Voilà. Mais je corrige parce qu'effectivement, je me suis trompé en tapant mon sujet. Voilà.
Et bien, très bien, alors on passe au bref de la semaine, quelques rendez-vous auxquels on vous invite ou pas à aller. Alors, ça commence mardi 16 avril à 17h, c'est un rassemblement contre les expulsions, ça sera devant la métropole de Lyon. Est-ce que j'ai l'adresse? Mince.
Bah c'est...
Non, je n'ai même pas l'adresse, merde. Ah si, 20 rue du Lac, ouais, dans le 3e arrondissement. Et effectivement, c'est la fin de la trêve hivernale. Et donc, c'est des milliers de personnes qui risquent d'être foutues à la rue.
À la rue, ouais.
Alors que, enfin, il le rappelle dans le texte d'appel, sur, rien que sur Lyon, je crois qu'il y a 18 000 logements qui sont vides, en grosse partie appartenant à la métropole, et qu'en fait, c'est pareil aussi pour les squats, etc. Il y a des gens qui y vivent, des familles avec des enfants, etc. Et que bah, la seule solution, bah, c'est juste de laisser les gens où ils sont. à défaut de proposer des vraies solutions d'hébergement qui soient dignes, on va dire, pour chaque être humain. Voilà, donc c'est devant la métropole, mardi 16 avril à partir de 17h.
Ensuite, à partir du mercredi 17 avril, c'est les rencontres printanières anti-autoritaires contre le nucléaire, qui sont du 17 au 23 avril, mais ça c'est dans la Meuse, c'est à Bure. Alors, si t'es intéressé, que tu veux savoir le programme et que t'as envie d'aller dans la Meuse, faut sache d'abord que le repas et le dodo sur place, c'est possible. Ou c'est écrit comme ça, je le lis comme ça. Et donc, pour plus d'infos, tu vas sur burebure.info. burebure.info. Voilà. Okay. Et tu as toute la... Bah, tu auras tout ce qui se passe et tu verras si tu as des trucs que tu as envie de faire ou pas. Voilà. Et sinon, si tu ne vas pas à Bure, tu te dis, tiens, j'aimerais aller à un atelier d'écriture et de création à destination des prisonniers et prisonnières. Et ça, c'est possible. C'est le fameux atelier Murmure qui vous donne rendez-vous, pardon, mercredi 17 avril 2024 à 18h à la librairie La Griffe. Donc l'idée, c'est de créer des écrits pour les prisonniers et les prisonnières. Alors ça peut être des lettres, des enregistrements sonores, des créations visuelles, des photos, et puis des passions par exemple aussi, parce que la tôle, c'est l'enfermement, et être enfermé, c'est la pire chose qui puisse arriver à un être humain. Ouais. Et donc du coup, voilà, c'est l'idée de quand même à un moment donné de donner un peu d'oxygène. Et juste, c'est de 18h à 20h à La Griffe, et La Griffe c'est 5 rue Sébastien Griffe à Lyon, dans le 7e.
Très bien. Eh bien, dernier rendez-vous. Alors, vous vous souvenez peut-être, si vous nous écoutez régulièrement, le 10 mars, on avait reçu Damien Martinière et Paul Bonnat était avec nous, lui, à distance via les internets. Ils nous causaient de leur BD Trompe-l'œil. Eh bien, ils sont en dédicace samedi... samedi 20 avril de 17h à 19h, si je me trompe pas, dans la
librairie,
Momy, c'est rue Victor Hugo. Ils y seront pour des dédicaces. Ouais, Momy, tout à fait. Ils seront là-bas pour des dédicaces. Donc, si vous voulez avoir votre petit croquis et votre petite signature et vos petites signatures, eh ben, c'est là-bas qu'il faut aller.
C'est laquelle? Il y en a deux à Lyon.
Oh, mais c'est celle qui n'est pas spécialisée en manga. Donc c'est l'autre.
D'accord, ok.
Et puis c'est tout. Je crois que c'était 42 Victor Hugo, avenue rue Victor Hugo.
Voilà. Merci. Et donc si tu veux nous écrire, c'est lacausericanu@gmail.com, lacausericanu@gmail.com. Si tu veux nous réécouter, c'est sur blogs avec un s.radiocanu.org/lacauserie. Tu tapes La Causerie Canu dans ton moteur de recherche, tu vas bien nous trouver. Sache quand même que, et on tient à les remercier, la petite équipe totalement bénévole à Canu, comme toujours, et totalement en autogestion, de la sitcom a réussi à réparer le play sur les blogs, ce qui fait que ça y est, tu peux nous réécouter. Ça, c'est super cool.
Oui, parce que ça avait bugué, il y avait des gens qui nous l'avaient dit. On s'était dit non, mais ça vient de chez vous. Non, c'était bien de chez nous que ça a foiré. Voilà, donc je m'excuse aussi auprès des personnes à qui j'ai pu dire, mais si, ça marche.
Et donc voilà. Donc maintenant, ça remarche vraiment. Et sinon, tu peux nous trouver aussi sur Facebook, mais ça, c'est juste pour faire de la promo. Et sinon, tu nous trouves aussi sur toutes les plateforme de podcast en tapant La Causerie Canu. Normalement, on est là. Et amis auditrices, auditeurs, on va te demander un petit service. Si tu utilises une plateforme de podcast où nous ne sommes pas, si tu peux nous écrire un petit mail en disant « Hey, je t'ai pas trouvé sur telle plateforme de podcast », c'est cool parce que normalement, c'est censé être redistribué sur toutes. Donc comme ça, on pourra corriger aussi cette petite erreur. C'est peut-être un aiguillage qui va pas bien.
Tout à fait.
Voilà. Et sinon,
et contribuer ainsi à notre...
Conquête du monde.
Du monde,
car c'est notre projet.
Oui, c'est un peu ça, notre projet.
Pardon.
Chacun à sa mesure, et le nôtre, c'est le monde, l'univers, que dis-je.
Voilà.
Voilà, et donc le dernier rendez-vous, c'est dimanche prochain, 22h sur l'antenne de Radio Canu. D'ici là, portez-vous bien. On va se quitter évidemment, en musique, avec un titre de Rookine. On en a déjà passé dans La Causerie, c'est un peu un groupe qu'on aime beaucoup, avec le titre Normal. Et si vous avez l'occasion d'aller les voir en concert, parce que là il y a les festivals qui débutent bientôt, etc. Donc vous aurez peut-être la chance de les croiser sur votre route de vacances ou pas, ou peut-être de week-end ou d'escapade vite fait à la verdure. Et si vous avez la chance d'aller les voir, allez-y, parce que c'est vraiment très très bon. Et donc on se quitte avec Rookine et le titre Normal issu de leur dernier album. Des bisous, portez-vous bien.
Des bisous.
Et tu dis pas au revoir.
Au revoir. J'étais concentré.
Excuse-moi. Allez, ciao, portez-vous bien.
Des bisous.
J'ai tout fait comme on m'a dit depuis que je suis tout petit. J'ai bien appris, j'obéis. J'ai jamais rien fait de mal. Je suis un mec normal.
Ouais.
Bosser, payer et repos. Pensez d'abord à ma peau.
Ouais.
J'ai ma place dans le troupeau. Je suis pas un animal, je suis un mec normal.
Hey.
On se range. Les vacances et le printemps. Parfois même on meurt avant.
Ouais.
De vivre notre idéal. Vous trouvez ça normal?